Moi, je vais commencer avec une petite bio, comme il y a des gens qui ne connaîtraient pas la carrière entière de Rima El Khoury. Donc, juste rapidement, Rima El Khoury est journaliste depuis 1998 et chroniqueuse depuis 2001 au journal La Presse, où elle s'intéresse aux enjeux liés à l'égalité des sexes, aux droits de la personne, à l'immigration et à l'éducation. En 2014, elle regroupe certaines de ses chroniques dans l'ouvrage aussi très évocateur « Pas envie d'être arabe », publié chez Somme Toute. Dans Madame, son premier roman publié chez Boréal, l'autrice relate l'histoire de Léa, une enseignante au primaire montréalaise qui, après la mort de sa grand-mère arménienne, se lance sur les traces du passé de celle-ci pour arriver à mieux comprendre ce qui est arrivé à ses ancêtres au début du 20e siècle, quand un génocide a décimé le peuple arménien. Donc d'abord, en fait, la première question que j'aurais, j'aurais aimé savoir, ce qui vous a poussé à écrire, d'une part, sur la filiation et aussi sur le génocide arménien, qui, il faut le mentionner, est un fait historique assez peu connu au Québec.
Oui, ben bonjour, merci de l'invitation. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire là-dessus? En fait, c'est une histoire qui m'habitait depuis longtemps pour des raisons personnelles, parce que donc je suis petite fille de survivante du génocide arménien, et c'est pas quelque chose. En fait, c'est pas quelque chose qui m'a nécessairement été vraiment raconté dans mon enfance, même plus tard. J'ai commencé à m'y intéresser assez tardivement. Donc moi, les mémoires que j'ai de ma grand-mère. Donc, c'est du côté maternel, en fait, le lien arménien, c'est des souvenirs essentiellement heureux de pâtisserie, de savon d'Alep, des choses vraiment très, très, très douces, de matchs de hockey, écouter avec ma grand-mère le samedi soir. Mais j'ai peu posé de questions sur cette histoire-là qui fait partie de donc de l'histoire de la famille. Et c'est seulement au centenaire du génocide arménien, donc il y a 5 ans, que j'ai vraiment plongé dans cette histoire-là, et je suis même allée, en fait, en reportage, essayer de retrouver donc les lieux de mes ancêtres, la ville dont ils ont été chassés en 1915, essayer de retrouver la maison. Et donc, ça a éveillé chez moi toute cette... c'est savoir, en fait, de quoi je suis héritière comme petite fille de survivant, qu'est-ce que ça signifie pour moi, comment on fait pour recoller les morceaux de cette mémoire blessée, qu'est-ce qu'on en garde, qu'est-ce qu'on jette. Et voilà, donc c'était le point de départ un peu de mon intérêt pour cette question-là. Il y a aussi, ça a aussi coïncidé, donc il y a 6 ans, à la mort de ma grand-mère, en fait, j'avais écrit une chronique hommage à ma grand-mère dans La Presse. Et en fait, c'est Boréal qui est venu à moi en me disant, il nous semble qu'il y a là l'idée d'un roman, est-ce que ça vous intéresse? Donc, le coup de pied qu'il me fallait pour y aller est venu aussi de Boréal. C'est une histoire que j'avais envie d'écrire depuis longtemps, mais que je remettais toujours le projet plus tard. Et là, quand Boréal m'est arrivé avec cette proposition, je me suis dit, OK, il faut que je le fasse.
Et justement, pourquoi avoir décidé d'investir, alors que ça aurait pu être un roman tout à fait biographique, pourquoi avoir décidé d'ajouter de la fiction à ça, entre autres, en créant une narratrice qui diffère de vous en plusieurs points? Par exemple, c'est une enseignante. D'abord, j'ai l'impression que c'est vraiment pas un hasard qu'elle ait été enseignante. Donc, pourquoi avoir créé une narratrice de roman fictionnel?
J'avais besoin, en fait, qu'il y ait une certaine mise à distance. J'avais aussi, l'enseignante, c'est pas un hasard. Donc, cette histoire-là que je raconte, c'est sur ma grand-mère, c'est beaucoup l'histoire, en fait, de mon arrière-grand-mère, qui est la femme qu'on voit au centre de la photo sur la couverture. Donc, c'est mon arrière-grand-mère avec son petit-fils né après le génocide. La photo a été prise à Alep en 1927, je crois. Et donc, l'enseignante, en fait, je suis entourée d'enseignants, ma mère est enseignante, donc il y avait cette idée aussi de, comme je voulais explorer le thème de la transmission, je trouvais qu'il n'y a pas meilleure figure que celle de l'enseignant pour explorer ce thème-là. Et aussi, en fait, parce que j'avais peu de... ma mémoire était vraiment trouée, la mémoire familiale était vraiment trouée. Je ne pouvais pas interviewer les témoins directs de cette tragédie-là. Et donc, c'est une mémoire... La mémoire que je raconte, là, c'est aussi une mémoire collective que j'ai recueillie en allant rencontrer les derniers survivants du génocide arménien, ici même à Montréal. Donc, il y a 5 ans, j'ai fait cet exercice-là. Il en restait très peu. Donc, des gens qui avaient déjà 104 ans, 105 ans, 106 ans, mais certains qui avaient vraiment toute leur tête, la mémoire vraiment bien vives et qui m'ont raconté des choses. Sont des femmes, surtout que j'ai rencontrées de cet âge-là. Donc une dame entre autres de 106 ans là, qui m'avait vraiment... dont le témoignage m'avait vraiment bouleversée. Et donc, j'ai un peu comblé les trous de mémoire en allant puiser dans une mémoire collective qui n'était pas nécessairement une mémoire personnelle. Oui.
Et justement, dans le livre, on retrouve beaucoup, beaucoup de personnages qui quand il est en fait, va faire son investigation, des personnages qui témoignent d'une façon absolument bouleversante et très réaliste, des témoignages très variés. Est-ce que c'était donc tous des témoignages qui sortaient de ces entrevues que vous aviez fait vous-même?
Oui, la plupart, oui. Donc, c'est à la fois des gens que j'ai rencontrés moi-même quand je suis allée donc sur les traces de ma mémoire familiale, donc des gens que j'ai rencontrés et des gens que j'ai rencontrés aussi à Montréal. Donc, tout ça, c'est-à-dire que la toile est hystérique. C'est drôle de lapsus. La toile historique, elle est vraiment véridique. Et puis après ça, j'ai cherché en fait à essayer de trouver une certaine vérité dans l'émotion qui anime les gens habités par ce genre de quête-là.
Et aussi, vous avez construit beaucoup, beaucoup de personnages pour ce roman-là qui sont tous très bien décrits, très distants les uns des autres, très bien campés. Et je veux savoir comment vous êtes arrivé à créer cette multitude de personnages-là. Et est-ce que ça a un certain rapport avec votre travail de journaliste où vous allez souvent faire des portraits en fait en chronique? D'ailleurs, j'ai adoré cette section-là, la section E dans Pas envie d'être arabe, est extraordinaire. Donc, est-ce que c'est ce qui vous a aidé à créer des personnages si humains et complets?
C'est une bonne question, mais je ne sais pas, je ne saurais pas dire en fait. Donc, je suis allée un peu, donc c'est la première fois que je m'assoyais pour écrire un roman. Donc, au début, j'étais vraiment, j'étais prise à un certain vertige. En même temps, même si c'est mon travail d'écrire, j'écris tous les jours depuis des années, donc le geste d'écrire était le même, mais je ne saurais pas vraiment dire, en fait, si c'était... est-ce que c'est un prolongement, en fait, de mon travail de journaliste? En fait, j'ai essayé un peu de congédier la journaliste, même si le geste d'écrire est le même. Il me semble que dans l'écriture d'un roman, en fait, on est un petit peu dans une posture inverse à celle du journaliste, dans ce sens que quand on travaille, quand on fait du reportage, on est vraiment toujours tourné vers l'extérieur, le Nicolet à l'actualité, et tout va très vite. Et dans l'écriture d'un roman, ben là, on est vraiment dans un temps long, et puis c'est plus notre regard est plus tourné en fait vers l'intérieur, donc aller chercher un peu un silence, aller chercher aussi des zones de vulnérabilité qu'on va pas nécessairement explorer dans un reportage parce que c'est pas le lieu pour le faire non plus.
Le livre va aussi présenter en fait une espèce de fenêtre sur d'autres réalités qui sont parfois un peu difficiles à comprendre dans un contexte en ce moment où est-ce que, par exemple, les nouveaux arrivants sont perçus par beaucoup de gens d'un mauvais œil. Et j'avais l'impression, par exemple, il y a ces enfants de 7 ans avec l'enseignante Léa, qui sont des enfants réfugiés, qui sont absolument touchants dès les premières pages. Et ensuite, bon, il y a tout ce qui a rapport avec justement l'immigration de la grand-mère et tout, qui nous font voir ces choses-là d'une façon beaucoup plus humaine. Et je veux savoir donc si vous aviez l'intention de faire œuvre utile en quelque sorte avec ce livre-là, d'amener un peu plus de tolérance, de compréhension envers ces enjeux-là.
Je n'étais pas nécessairement animée par cette intention-là. En fait, j'aime pas quand les livres sont didactiques, mais évidemment, après, on sait que les grands lecteurs de romans, en fait, c'est des gens plus empathiques. Puis je crois que le roman a ce rôle-là. En fait, on nous fait vivre avec des personnages pendant 100 pages, 200 pages, 300 pages. Et forcément, on peut voir la vie à travers les yeux de différentes personnes qu'autrement on n'aurait jamais rencontré. Donc, tant mieux si ça peut faire œuvre utile. Moi, en fait, j'étais en explorant cette histoire-là, ce qui me frappe, me désole d'une certaine façon, c'est à quel point L'humanité n'a vraiment pas appris de ses erreurs. Donc, on voit s'il y a vraiment. Bon, on parle d'un génocide qui s'est passé il y a 100 ans, mais on voit que l'histoire, 100 ans plus tard, c'est toujours. Cette région du monde est toujours embrasée. Par rapport aux migrants, dans l'accueil des migrants, les mêmes réactions d'intolérance, de repli se voient encore aujourd'hui. Et il y a une des questions que se pose la narratrice et que je me pose aussi moi-même, c'est après, nous, quel est notre rôle là-dedans et qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, devant ce monde désespérant? Comment on peut faire en sorte que ça se passe autrement et que de revenir à une certaine, toujours de revenir à notre humanité commune, ouais.
Oui, il y a aussi justement, vous avez parlé un peu de l'espoir justement, et il y a beaucoup d'espoir dans ce livre-là, alors qu'il pourrait y en avoir très peu. On parle de choses très dures, et en fait, quand Léa va en Turquie, la situation politique est difficile, il y a des choses qui arrivent aux personnages qu'elle côtoie qui sont très difficiles. Et finalement, il ressort quand même un récit très lumineux. Comment est-ce que vous avez insufflé toute cette lumière-là dans le livre?
Mais ce livre-là, je le vois vraiment comme un peu une quête d'espoir dans un monde désespérant. Et je pense que cette lumière-là, en fait, elle me vient de mon héritage. C'est-à-dire, oui, il y a mes ancêtres ont vécu quelque chose de terrible. Ils ont vu vraiment le pire de l'humanité. Mais en même temps, en ayant eu cette chance incroyable de s'exiler et de vivre dans un pays en paix. L'héritage qu'ils laissent à leurs petits-enfants, c'est un héritage d'espoir, c'est un héritage. J'ai l'impression que donc, de cette mémoire blessée, ce qu'il faut tirer, en fait, c'est surtout ce devoir de garder espoir, de garder espoir malgré tout, d'avancer, de faire notre mieux, mais c'est vraiment, je pense que c'est mon principal héritage au-delà de la mémoire blessée.
Je pense aussi qu'une des façons dont la lumière permet d'arriver dans le livre, c'est tous les petits détails sur les cultures, sur les gens qui sont en fait remplis de beauté. Et par exemple, tout ce qui est sur le savon d'Alep, que j'ai vraiment, vraiment adoré. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous venait naturellement d'ajouter tous ces détails qui forment un univers très complet dans le livre, ou si c'était quelque chose que vous repassiez sur le livre une fois que la trame, disons, narrative était déjà établie. En fait, c'est comme une façon détournée de vous demander de me parler de votre processus d'écriture.
La grande étude.
Ça m'est venu assez naturellement parce que en fait, cette mémoire-là, c'est celle que j'ai pas eu à déterrer. C'est la mémoire que je connaissais, qui m'était la plus connue. Donc, c'est une mémoire justement assez douce, d'odeur de savon, de pâtisserie. Ça m'est venu assez naturellement. Et puis, je trouve que, en fait, il y a quelque chose de très, très émouvant quand des gens. Ceux qui ont vécu des tragédies épouvantables, la guerre ou un génocide, comment ils s'accrochent à ces petites choses du quotidien qui ont l'air futiles, mais qui ne sont pas. Donc, l'odeur d'un savon qu'on retrouve, qui peut nous rappeler des souvenirs heureux, justement des pâtisseries qu'on recrée dans son pays en exil, des chansons. Donc, tout ça, en fait, c'est pas futile, c'est ça qui nous aide à vivre sans ça. On n'y arriverait pas.
Il y a aussi, entre autres, le frère de la grand-mère, en fait, qui est resté en Syrie et qui va boire son café à tous les jours, qui dit, ben non, ça va, si je suis capable de prendre mon café, tout va bien. Je trouvais ça très touchant.
Oui, ben ça, donc ça m'était un peu inspiré de. Ma grand-mère, ma vraie grand-mère, qui n'est pas celle du roman, mais ma vraie grand-mère, elle avait un frère jumeau qui restait en Syrie à Alep. Et donc, il y avait. J'étais fascinée, en fait, de voir ces deux vies-là en parallèle. Donc. Une qui a choisi de l'exil et l'autre qui a choisi de rester. Et quand on parle à des gens en Syrie, même sous les bombes, en fait, il reste ces petites choses-là du quotidien. Leur vie continue, la vie continue sous les bombes, mais il y a quand même le café, la musique, on s'accroche aussi à des petites choses du quotidien qui. Comme on peut. C'est une façon, en fait, quand on pense à la Syrie, surtout en ce moment, évidemment, on n'a que des images de désastres, Mais les gens continuent, n'ont pas le choix en fait de continuer à vivre malgré tout.
Je vais savoir votre pratique d'écriture en fait de romancière, parce que vous avez quand même un travail qui montre que vous écrivez pas mal toute la journée en tant que journaliste. Comment est-ce que vous êtes arrivé à y ajouter une pratique d'écriture en fait fictive, narrative, sans crouler sous les mots et la pression de toujours, toujours être en train d'écrire?
Donc je savais, j'avais aucune idée combien de temps ça me prendrait écrire ce roman. Ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais. Donc j'ai pris un premier congé sans solde l'été. J'y suis, j'ai laissé le manuscrit de côté. J'y suis retournée l'été suivant. Puis l'été suivant, j'étais vraiment pas, en me relisant avec la distance, je trouvais que j'étais vraiment pas satisfaite de ce que je lisais, donc j'ai comme coupé la moitié. Et ce qui faisait que plus j'avançais, plus le livre était court. Il y a un matin où j'ai comme googlé nombre de mots minimum dans un roman. Je me suis dit, ah, je vais leur dire, hein, c'est un concept, c'est un roman de 10 pages qui parle de silence. Hein, j'avais toujours espoir de finir. Après 2 étés, 2 congés sans solde, j'avais dit à mes patrons, là, c'est le dernier congé sans solde parce que là, je veux vraiment le finir. J'avais pris un congé un peu plus long l'été pour y arriver. Mais finalement, il y a eu 5 derniers congés sans solde. Et donc, ça a été. J'étais pas. Parce qu'au début, je me disais, ah, peut-être que je pourrais le soir, les fins de semaine, y travailler, en plus de mon travail à la presse. Mais ça, c'est impossible parce qu'en fait, il faut l'espace mental pour écrire. Puis c'est vraiment le journalisme et la fiction, c'est vraiment 2 postures inverses, là. J'avais pas l'espace mental pour le faire le soir, les fins de semaine. Donc, il fallait vraiment que je prenne l'été. Et puis, en fait, d'avoir un manuscrit qu'on laisse de côté pendant plusieurs mois et auquel on revient. En fait, je trouvais que c'était pas une mauvaise chose, dans le sens où à chaque fois que j'avais un regard neuf, je le lisais moi-même comme une étrangère, avec un regard vraiment plus critique. Et donc, voilà, ça a pris le temps que ça a pris, mais ça a pris 5 ans.
5 ans quand même. Et comment vous vous sentez par rapport, ça a été votre projet pendant tellement longtemps, quand même un projet très personnel. En plus, ça a maturé vraiment longtemps, où est-ce que vous étiez la seule ou presque à lire. Là, maintenant, c'est dans le monde, puis il y a plein de gens qui sont intéressés, qui le lisent. Vous faites des entrevues. Est-ce que ça a changé votre rapport à ce texte-là? Est-ce qu'il y a comme un sentiment d'étrangeté ou c'est parfait comme ça?
Oui, ben en fait, c'est ça, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, parce que moi, évidemment, cette histoire-là, elle m'habite depuis longtemps, et puis, elle me tenait à cœur, mais je ne savais pas du tout si ça allait intéresser les gens. Et donc, la réaction depuis quelque temps, donc déjà, comme j'ai la chance d'avoir un rapport assez privilégié avec les lecteurs, les gens, ils savent me trouver, ils m'écrivent directement à la presse. Donc, j'ai déjà reçu des lettres de lecteurs, surtout des lectrices, avec des longues lettres de gens qui l'ont déjà lu et qui m'en parlent avec beaucoup d'émotion. Puis j'étais en fait très touchée par la réaction des gens, parce que même si, donc il est question d'une histoire très personnelle en lien avec le génocide arménien, mais en fait ce qui est ressorti beaucoup des réactions que j'ai reçues jusqu'à maintenant, c'est que tout le monde y retrouve un peu sa grand-mère, peu importe que ce soit une grand-mère québécoise, polonaise, peu importe, il y a quelque chose dans l'universel un peu de la grand-mère, ces femmes fortes qui ont fait un peu ce qu'on est, dont on est les descendantes. Il y a quelque chose de. C'est ça qui m'a beaucoup touchée, en fait, dans la réaction des gens. Ouais.
Justement, ce personnage de la grand-mère, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas encore lu le livre. Moi, c'est un personnage qui m'a absolument touchée, donc sans trop donner de divulgateur, là. Parler un peu de ce personnage plus grand nature. Ouais.
Donc, ce personnage, elle a 107 ans, et le roman commence en fait avec sa mort. C'est un personnage, en fait, c'est une femme, c'est un peu, je crois qu'à un moment donné, je dis dans le roman, c'est une main de fer sous un plat de douceur, c'est un peu ça. C'est une femme qui s'est jamais dit féministe, mais qui l'était à sa façon, qui n'a jamais porté de pantalon, mais qui avait comme un pantalon dans la tête, et qui était vraiment à la fois donc très dure et très, très. Et en fait, ce côté dur cachait vraiment un côté très doux. C'est quelqu'un qui refuse de plonger dans sa mémoire douloureuse et qui donc a fait le pari de juste regarder devant. Et lorsqu'on lui pose des questions sur ce passé-là, essaie d'éviter le plus possible, parler de hockey, de pâtisserie, plutôt que de parler des choses horribles dont elle a été témoin. C'est un personnage attachant qui m'a beaucoup été inspirée de ma propre grand-mère et aussi de mon arrière-grand-mère. Qui était aussi de ces femmes très fortes qui sont souvent oubliées par l'histoire. Hein. Quand on raconte le génocide arménien, on va souvent parler des hommes, mais l'histoire des femmes dans ce génocide est beaucoup moins connue et gagne davantage. Absolument. Et je vais aussi savoir, bon, là, je comprends que c'est un travail un peu ardu, l'écriture de ce roman, mais est-ce que ça vous a quand même donné le goût d'explorer plus le genre de la fiction, peut-être d'avoir d'autres projets littéraires, sans vous mettre de pression non plus, ben, en fait, j'ai un deuxième projet de livre en fait, que je suis en train de terminer en ce moment, qui a été plus rapide, oui, parce que j'avais une éditrice qui me poussait dans le dos. Donc, elle m'a dit que j'avais le droit d'en parler. C'est une bio d'une réfugiée politique iranienne qui fait partie du mouvement des femmes qui ont manifesté contre le voile obligatoire en Iran. Donc, c'est une histoire éminemment d'actualité. Et donc, cette femme-là, c'est une femme de mon âge qui est réfugiée maintenant à Toronto. C'est un livre qui raconte son histoire à elle, son combat, et qui parle de la situation en Iran maintenant, qui est terrible pour tout le monde, mais pour les femmes en particulier. Donc ça va être publié le 30 janvier aux éditions Plon. On va surveiller ça. Je pourrais ouvrir les questions au public maintenant, si jamais il y a des gens qui ont des interrogations sur le livre, sur sa carrière de journaliste. Je pose une question, je donne quelques minutes, puis je vous reviens, sinon, que vous réfléchissez. D'accord. Justement, je suis contente que vous ayez parlé de l'importance de donner la voix aux femmes, en fait, qui sont comme les grandes disparues de l'histoire. C'est quelque chose, effectivement, qui manque dans les livres, souvent. Donc, quand vous avez fait, j'imagine, dans ce cas-là, une narratrice et une grand-mère, elle va souvent rencontrer aussi des femmes. Ce sont les femmes qui vont donner les clés. Par exemple, c'est une femme qui est maintenant la maison de ses parents et tout. Donc, c'est vraiment les personnages féminins qui vous intéressent plus à écrire, à composer. Oui, en fait, c'est venu instinctivement, mais oui, je crois que ça manque. C'est quelque chose, je trouve qu'on ne parle pas assez de l'histoire des femmes. Donc, c'était pour moi une façon, peut-être. Ça s'est fait naturellement, j'avais pas d'intention didactique ou militante en le faisant, mais oui, je trouve que on devrait. En fait, les histoires qu'on raconte pas, elles n'existent pas. Donc, et souvent, les femmes sont vraiment. Leurs histoires sont doublement oubliées. Ouais.
Donc, on pourrait s'attendre à une carrière de romancière qui va permettre de mettre les femmes de l'avant, en fait, de les écrire dans l'histoire.
On verra, mais je sais pas. C'est sûr que en fait, ce que j'aime le faire le plus dans la vie, c'est écrire. Donc, je vais continuer à écrire. Est-ce que ça sera d'autres romans qui parlent d'histoire de femmes? Peut-être, mais
absolument. Mais merci beaucoup pour cet entretien. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Merci pour votre temps. Et dans ce temps, vous savez que faire des études, on va faire la classe à 30 quelques minutes. Merci beaucoup.